بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ فرع الإسلام نو كونتينيون لو حديث جبريل حديث de base pour connaître la foi, le iman du musulman. Hadith dans lequel on avait expliqué depuis le début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la visite de l'ange Jibril alayhi salam, qui était donc venu enseigner l'islam aux croyants. Et dans ce hadith, l'ange Jibril a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement concernant la foi. Qu'est-ce que l'iman? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu que la foi, c'est croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres, croire aux prophètes, croire aux jours du jugement dernier, croire au destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc cité les piliers de la foi, ce qu'on appelle arkanul iman. Et on avait commencé à développer les piliers de la foi, en commençant bien sûr par la foi en Allah, et ensuite on avait développé croire aux anges. On avait dit qu'il est extrêmement important pour un musulman de développer son iman. Pourquoi? Parce que plus la foi sera complète, plus la foi va s'installer, va s'incruster dans le cœur d'un croyant, plus ce iman, cette foi, va le pousser, va le motiver à accomplir de bonnes actions. Je pense que si on peut éteindre quelques ventilateurs, la voix se perd là, là on ne s'entend plus. Jazakumullah. Même s'il fait un petit peu chaud, je préfère qu'on ait chaud et qu'on entend plutôt qu'il fait bon et qu'on ne s'entend pas. Barakallah fikum. Alors donc, la grande leçon qu'on devait retenir sur Al-Iman bil Malaika, qu'on avait développé en 3 ou 4 lundis, c'était de réaliser que le alam, le monde des anges, est un monde gigantesque. Le nombre de makhlouqat, le nombre de malaika qu'Allah a créé, ça représente 90% de la création. Et nous ne représentons que 10 poissons. Et encore de ces 10 poissons, il y a 9 sur 10, c'est les Ya'juj wa Ma'juj. Donc vraiment la race, subhanallah, le khalq, la création des anges, c'est un signe de plus de la puissance d'Allah Azza wa Jal, de l'étendue de sa création et de la force de ses créatures, de ses makhlouqat. Lorsqu'on avait expliqué la force de l'ange Jibril, la force de Malik al-Maut, l'omniprésence et, subhanallah, le sérieux des anges qui inscrivent les actions, leur assiduité sur cette tâche qu'Allah Azza wa Jal les a incombées, on se rend compte que, subhanallah, si de tels makhlouqats sont capables de telles choses durant des années et des années, et certains devant, subhanallah, depuis le début de la création jusqu'au Qiyama, que dire de la puissance du Créateur? Donc ça, c'était une des leçons à retenir. Premièrement, que se rendre compte que nous ne représentons strictement rien par rapport à la création d'Allah. Deuxième leçon, réaliser la puissance des créatures d'Allah. On avait d'autres textes qui décrivaient la grandeur des Hamalatul Arsh, des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Et quand nous voyons qu'Allah a de telles créatures qui tremblent de peur devant lui, qui passent leur vie à rester dans le dhikrullah, de l'obéissance d'Allah, que dire de notre situation à nous, qui n'avons pas la force physique de ces malaïkas, qui n'avons pas les mêmes honneurs que ces malaïkas, et qui, wallah musta'an, désobéissent délibérément à Allah Azza wa Jal, sans craindre sa colère, sans craindre son châtiment. Ça, c'était les grandes lignes à retenir sur Al-Iman bil Malaika. Il me semble que la dernière fois, on avait surtout développé, on avait surtout expliqué le travail des anges qui inscrivent des actions bonnes comme mauvaises. Par contre, si je peux récupérer ce banc, ça m'arrangerait. Allah vous récompense, parce que je dois en même temps tourner les pages, et le livre fait, mashallah, 956 pages. Ça me fait des biceps à la fin du... D'accord. Mais c'est peut-être pas le but. Jazakallah khair. 956 pages, subhanallah, c'est juste la moitié de Riyad al-Salihin.
Allah récompense les savants. Et justement, pour, petite parenthèse, quand on parle de des anges, hein, qui inscrivent les actions, les a'mal, bonnes comme mauvaises, et que on avait fait targhib la dernière fois, incité à accomplir de bonnes œuvres et mise en garde contre les péchés, ça nous ramène vers une réflexion profonde en ce soir de fin d'année 1434. Non, faut pas aller trop vite. Fin d'année 1434. Et là, on a démarré, barakallahu fik, la première nuit, le premier Muharram de 1435. Vous savez, quand on voit le temps qui passe, hein, là, il y a des messages qui circulent, des SMS, des machins, c'est bon, c'est pas bon, c'est bidat, c'est pas bidat, ça c'est une autre masla. Mais moi, ce qui m'importe, hein, ce qui doit nous importer, nous, en tant que croyants, c'est que quand une année commence, on ne doit pas avoir le même réflexe que ceux qui n'ont pas la foi, et qui se contentent de souhaiter bonne année, joyeuse année, gna gna gna, etc., vœux de bonheur, vœux de, ou même parfois vœux de malheur pour les ennemis, et ainsi de suite. Le début d'une année ne doit pas être un moment festif. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'islam, on ne fête pas le premier Muharram. Sinon, ce soir, ce serait le réveillon, oui, non? Ce serait le réveillon aux Arabes, ou le réveillon de nos frères comoriens, maorés, hein, c'est le premier jour de l'an, d'accord? Mais alhamdulillah, chez nous, il n'y a pas ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? On fête Eid al-Fitr, oui. Eid al-Adha, oui. Mais le jour de l'an, ce n'est pas notre priorité. Parce que le temps qui passe, mes chers frères, n'est pas synonyme de fête. On ne se réjouit pas du temps qui passe. Quand 1435 arrive là, il ne faut pas dire, non, on ne fait pas d'artifice, c'est 1435. Au contraire, une année qui s'est écoulée, on doit s'arrêter, se retourner. Qu'est-ce que j'ai fait en une année? C'est 360 jours du calendrier lunaire 1434 qu'Allah m'a accordé. C'est un amana, ça, oui ou non? Le temps, les jours qu'Allah m'a accordé, c'est un dépôt. Combien de personnes parmi nous, combien de personnes ont perdu des proches cette année? Que ce soit des gens qui habitent ici ou qui habitent dans le pays, à droite ou à gauche, proches, éloignés ou amis. Combien avons-nous perdu de personnes cette année, l'année d'avant, et ainsi de suite? Nous avons tous quelqu'un qui nous était cher, qui nous a quittés et qui aurait pu continuer à vivre et avoir notre âge. C'est-à-dire, eux, ils ont terminé leur parcours. Les jours qu'Allah leur avait accordés, c'est terminé. C'était cette chance-là qu'Allah leur avait accordée pour faire le maximum de bonnes œuvres, éviter le haram, être patient, et s'inviter mutuellement, s'enjoindre à accomplir de bonnes œuvres, à s'éloigner du haram, ordonner le bien, interdire le mal. Ça, c'est la vie du croyant. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ça, c'est la vie du croyant. Donc, quand une année, c'est cool. Plutôt que de festoyer, on doit se poser la question: est-ce que c'est une année qui m'a rapproché d'Allah ou qui m'a éloigné d'Allah? Mais que cette année m'ait rapproché d'Allah ou m'éloigné d'Allah, dans tous les cas, cette année m'a rapproché de quoi? De la mort. Cette année m'a rapproché du maw'id, du rendez-vous avec l'ange de la mort. Ce moment où il va venir reprendre mon ruh. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Maintenant, quelqu'un pourra dire que j'ai l'impression que je fais de bonnes œuvres, l'autre va dire que j'ai l'impression que j'ai fait plus de bêtises, mais ce qui est sûr, c'est qu'une année qui s'écoule, mes chers frères, c'est une année qui nous rapproche de la mort. Et ce Malik al-Maut n'a pas reçu l'ordre d'Allah de prendre que les bakoko, que les vieux, ou que ceux qui ont la barbe blanche ou les cheveux blancs. Là, Allah, cette année, subhanallah, on ne va pas citer tous ceux qui sont décédés, mais avant le Hajj, subhanallah, quelques semaines avant le Hajj, on a un jeune de, quel âge avait? 29, qui est décédé, 8 ans, qui habitait quel quartier? La Tanier. Quelqu'un de bien. Il avait des projets, commerçants, investissements, rentabilité, plein de choses en tête. Subhanallah, il avait sa maman qui était encore vivante. Et Allah le récompense, il était proche de sa maman. Il donnait sa vie pour le khidma de sa maman. Et ça, c'est louable. Parce que le papa était décédé quelque temps avant. Il s'était fixé comme objectif de rester proche de sa maman, être dans le khidma de sa mère. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Quand on a cet âge-là et qu'on va plutôt vers cet objectif de khidma de ses parents, plutôt que de penser je vais me marier, je fais ci, je vais faire ça, sachant que la maman est dans une situation, on va dire, un peu difficile après le décès du père. Bref, quand on a fait les visas de Hajj cette année, on passe en revue tous les passeports, tous les visas, on colle dans les passeports, on vérifie les dates de naissance, les numéros, bref. Je suis tombé sur son visa, subhanallah. Parce qu'il s'était inscrit pour le Hajj. Il s'était inscrit pour le Hajj. Et son visa avait déjà été imprimé. Et j'avais son visa dans ma main. Et là, je suis resté silencieux quelques instants. J'étais choqué. Là, il y avait les Saoudiens, donc, le ministère, qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passe avec ce pèlerin. Pourquoi tu ne colles pas ce visa? Je dis que je ne colle pas parce que, subhanallah, il ne fait plus partie de notre monde. Allah l'a repris. Ils m'ont dit, subhanallah, expliquez. Il dit qu'Allah lui accorde le Jannah, inshallah, fais doigt pour lui. Et ça m'a perturbé pendant quelques temps. Pas parce qu'il est décédé, parce que là où il est, Allah seul le sait. On ne regrette pas nos morts, parce qu'ils sont près d'Allah. Par contre, ibra, une leçon de vie. Une personne qui s'est déjà engagée, déjà inscrite, et il ne sait pas que Malik al-Maut s'est déjà engagé et il a déjà pris dans son groupe. Lui, il a voulu être dans tel groupe pour faire le Hajj, le pèlerinage, mais Malik al-Maut l'avait déjà inscrit dans son groupe pour Dhul Hijja ou alors Dhul Qa'ida, oui, Dhul Qa'ida 1434. Maintenant, si on remontait le calendrier, on remontait à Ramadan, Shawwal, et que on observait ce jeune évoluer dans sa vie. Supposez, hein, c'est un cas hypothétique que nous on connaît, et on revient, hein, vers le passé et on l'observe. Et que lui, il vit normalement. Quel conseil on leur aurait donné? Si on était capable de revenir en arrière, de repousser, de reculer le temps, et qu'on est au mois de Shawwal, après le Eid, et après le Eid en général, subhanallah, on ressort gonflé à bloc du Ramadan. Après, il y a deux chemins. Soit on reste ferme dans les bonnes œuvres, soit peu à peu on perd pied, on se dit qu'après on va refaire, on pose et puis on lâche tout. Quel conseil on aurait donné à ce jeune? Si c'était moi qui étais dans ce scénario hypothétique où je pouvais retourner en arrière, je l'aurais attrapé par la main. Je l'aurais même plaqué contre le mur, comme un policier. J'ai dit, attention, toi, tu vas mourir dans 3 semaines. Attention, ton heure arrive dans 3 semaines. Vérifie tout ce que tu as fait dans ta vie. Demande istighfar à Allah Azza wa Jal s'il y avait des péchés cumulés. Fais en sorte que tu n'aies manqué aucun salat. Vérifie tes comptes de zakat. Vérifie si tu n'as pas raté des saoum, des jeûnes de Ramadan. Vérifie si ta maman est vraiment satisfaite de toi. Vérifie si ton tonton, tata, tati, je ne sais pas comment on dit, la tante, kala, frère, soeur, neveu, nièce, bas, kollo, la famille, est-ce que tout le monde est en bon terme avec toi? Est-ce que tu n'as pas eu de problème avec tes proches, avec des gens éloignés, avec des musulmans, avec ton voisinage, avec des non-musulmans? Bref, fais en sorte que quand tu quittes ce dunya, tout est clean, tout est ok. Ça, ça aurait été le conseil qu'on aurait donné à cette personne. Mais ce genre de scénario, mes chers frères, c'est impossible. Parce qu'Allah a décrété que l'ange de la mort surprend. Quand Malik al-Maut reprend l'âme de quelqu'un, c'est toujours pas surprise. Mais cet homme-là, hein, ce jeune homme, qu'on aurait aimé prévenir, quoique, alhamdulillah, il a dû, mashallah, rester sur le droit chemin, husnuddhan. Mais ce jeune homme qu'on aurait aimé le rendre visite quelques semaines avant sa mort et le prévenir, ben ce jeune homme-là, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être Riyad, ça aurait pu être Youssouf, Mohamed, Ishaq, Ibrahim. Ça peut être n'importe qui parmi nous. Que dans 3 semaines, dans 1 mois, on parle qu'un tel était présent dans notre majlis à Saint-Clotilde, dans notre classe. Écoutez, il était attentif. Il est décédé, première semaine de Muharram. Il est décédé le 10 décembre, le 15 décembre. Si seulement on aurait pu le sermonner et ainsi de suite. Bref, est-ce que ce jeune savait qu'il allait quitter ce dunya? Non. Personne ne sait qu'il quitte ce dunya. Il y a des gens qui, mashallah, ils vivent 80, 90, alhamdulillah, comme on a dit. Et lui, il n'a pas atteint la trentaine, et Allah l'a repris. Ça, c'est une grande leçon à retenir. Jamais une seconde on aurait pensé qu'il allait quitter ce dunya à cet âge en 1434. Ben, quand on analyse, on doit vraiment voir le temps passer avec le cœur, et non pas avec les yeux, et non pas juste 1435, on change de calendrier, on prend une note, et on reprend les projets, qu'est-ce que je vais faire cette année, je vais faire telle chose. Le mu'min, le croyant, mes chers frères, on va conclure là-dessus. Le croyant doit jamais réfléchir à long terme. Sur le plan dunya, bien sûr. Il doit toujours réfléchir à court terme. Et à court terme, sa priorité, c'est quoi? Se dit que si à court terme, c'est-à-dire si ce soir, si demain, ou si dans un instant même, Allah me reprend, est-ce que, complété,
est-ce que je suis clean?
Clean. Est-ce que je suis prêt? Ça rejoint. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que là, si Malik Al-Maut m'envoie un texto ou un WhatsApp, ça ne se fait pas. Il dit que monsieur un tel, voulez-vous mourir dans 10 minutes? On vous donne le choix. Je dois me demander, est-ce que je suis capable de dire oui? Celui qui est capable de dire oui, c'est qu'il est clean, comme tu dis. C'est qu'alhamdulillah, sur tous les jawanib, iman, a'mal, saliha, éloignement des péchés, birrul walidain, respect des parents, respect de sa femme, respect de son épouse, éducation de ses enfants, yani, responsabilité en tant que papa ou maman, pour ceux qui sont mariés, par rapport aux enfants, et ainsi de suite, être sûr que tout ça, c'est ok. Et là, ça rejoint ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, « Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'a. » Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer la mort? Non. Il y avait sahaba, si je ne me trompe pas, Aïcha, si je ne me trompe pas, à vérifier, elle avait demandé au prophète d'Allah, « Mais qui aime la mort ?» Ça, c'est une question tout à fait logique, ça. Personne n'aime la mort. Quand vous rentrez chez vous, là aussi je reprends le cas de l'homme qui a sa femme, ses enfants, même celui qui est un peu plus âgé, qui a des petits-enfants, tout ça. Et si on vous dit, allez vous quitter tout, on dit, attends, mais j'aimerais voir ma fille se marier. Ou alors ma fille attend un enfant, j'aimerais voir mon petit bébé, j'aimerais que je vois mon fils réussir, telle chose, et ainsi de suite. Yani, on veut la fraîcheur de nos yeux à travers nos enfants. On veut être fiers d'eux. On veut aboutir. On veut compléter des projets. Ça, c'est quelque chose de tabi'i. Fitra. C'est quelque chose de normal, ça. Chez n'importe quel être humain. Autrement, on n'est pas humain. Autrement, on n'a pas de sentiments. Mais mes chers frères, le plus important, c'est de réfléchir d'une autre façon. Essayer de faire une rééducation de l'âme. Rééducation des objectifs. Et ce n'est pas facile, ça. Donc celui qui, personne n'aime la mort, parce qu'on est attaché à notre femme, nos enfants, à nos biens parfois, à notre maison, à ce qu'on a pu avoir, on a pu acquérir, on a pu acheter. Mais ce qu'il faut développer, c'est l'envie de rencontrer Allah. Être prêt, à n'importe quel moment, de rencontrer Allah Azza wa Jal. Oui, mais il m'est arrivé une fois, je vous dis ça, c'est peut-être, certains disent que oui, mais c'est l'expérience personnelle, mais juste retenez-le, ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir très mal au niveau du cœur, serré, et vous avez l'impression que vous craignez que vous allez mourir? Ça arrive, ça, même aux jeunes, pas uniquement aux anciens. Parfois, c'est juste musculaire. Hein? Parfois, devant un docteur, commence à angoisser un peu, donc tu dis ça c'est musculaire, ou ça c'est l'effet de gaz qui compresse et ainsi de suite. Ou alors c'est un souffle, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, tu peux avoir mille et une raisons. Mais parfois tu angoisses. Parce qu'il fait mal, il fait mal, il fait de plus en plus mal. Quand tu respires, ça fait mal, ça attrape ton épaule. Et puis là, sur ça, sur adoptissimo.fr, je ne sais pas quoi, tu es mort. J'ai dit que, est-ce que vous êtes mort? Vous cliquez oui, vous mourrez vraiment. Parce que j'ai dit que si vous avez tel signe, appelez le 15, vous êtes en train de faire un infarctus. Et puis, après 10 minutes, ça se libère. Vous retrouvez votre souffle, vous commencez à respirer, mais pendant 10 minutes, tu as eu cap-cap. Cap-cap, c'est quoi? Ou la stress émane. Tu as eu très peur. Parce que tu t'es dit que peut-être que je vais mourir. Et là, tu commences à réfléchir, à penser à plein de choses. Et quand ça va mieux, ben, le petit man devient un vilain man et il continue ce chemin vers les mêmes péchés, les mêmes bêtises. C'est exactement ce qu'Allah Azza wa Jalla dit le Coran. Subhanallah, c'est un verset là, si ça me revient. Si quelqu'un mémorise le Coran aussi, qu'il me souffle. Quand on parle des gens qui sont dans le bateau, qui sont dans la tempête. Abdul Malik. Le verset où on parle des gens qui sont dans le bateau, dans la tempête, et qu'Allah voit son aide, et que la personne retrouve la TFM et tout. Wallah musta'an marra ka'allam. Allah Akbar, vous faites révision pour Taravi les prochaines, pour revoir. وَإِذَا غَشِيَهُمْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Complété. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Si je me trompe, les péchés sont, Inch'Allah, pour toi. Donc, c'est le verset. La personne qui est dans la mer, dans la tempête, il sait qu'il va mourir. Et dans ces moments-là, vers qui il s'oriente? Allah Rabbul Izzah. Il oublie tout là, il oublie son Justin Bieber, il oublie Zlatan, il oublie tout. C'est pas que lui qui va zlataner mon bateau de la tempête pour que je zlatane cette tempête. Voilà, Shay. Il sait que le seul qui peut l'aider, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc là, il est mukhlis, da'awullaha, mukhlisina lahuddin. Dans mukhlis, vous retrouvez quoi? Ikhlas, sincérité. Et quand Allah envoie son aide, et il retrouve la TFM, il est content, il est heureux, il est sauvé. Il y a un moment de reconnaissance, mais quelques temps après, il recommence à faire le coq. Et il retourne vers ses péchés, l'orgueil, la fierté, il recommence à faire ses bêtises. Ben ça c'est ce jeune homme qui, pendant un match de football, pour ceux qui savent jouer, à un moment donné, il gagne un petit peu de douleur là, et il croit que là, mais ça finit. Et il commence à penser son papa, à son maman, toute sa race. Et puis, il commence à angoisser, à regretter. J'ai pas fait Fajr ce matin. Moulissab avait raison, peut-être. Il avait expliqué ça, c'était vrai. Et puis, quand ça se débloque, ça va mieux. Il repousse au ballon, il compte jouer, et puis il oublie tout. M'est arrivé une fois, à Makkah. À Makkah. Je sais pas si j'étais en Muharim ou non. À Makkah, près de la Kaaba. J'ai eu ça. Très mal. Et j'ai l'impression que ça va plus là. Là, c'est parti. J'étais tout seul. Puis, quelqu'un peut dire, oui, mais tu es à Makkah, en état de Tahara, tu viens de faire la Salah et tout, tu meurs devant la Kaaba, quelle plus grande chance, quel plus grand honneur. N'est-ce pas là le doigt que tu formules tout le temps? Je me suis dit moi-même, mais je me suis dit que oui, mais je ne suis pas prêt. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à, et ainsi de suite. Ce qui montre que nous restons des êtres humains. Ça c'est insan. Ça c'est l'attachement à la famille, aux enfants. Et je me suis dit également que non, j'ai pas fait assez istighfar. J'ai certainement des choses pour lesquelles je dois demander encore taouba. Je suis pas prêt là à aller devant Allah. Quel visage, comprenez? Mais le mu'min, il doit arriver à un état d'esprit, un état de iman, que n'importe quel moment où on coupe le compteur off, il est prêt. Tout est ok, tout est clean. C'est ça qu'on doit essayer de développer, mes chers frères. Quand on voit une année qui se termine, on doit se demander, est-ce que cette année-là m'a rapproché d'Allah ou m'a éloigné d'Allah? Est-ce que cette année m'a rapproché du Jannah ou m'a éloigné du Jannah? Est-ce que ça m'a rapproché du Jahannam ou m'a éloigné du Jahannam? Parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on se rapproche soit du paradis, soit de l'enfer. Ce croyant qui, aujourd'hui c'est lundi, qui a fait ses 5 salats à l'heure, son fajr il a fait 5h05 ou 5h, yani avant 5h, quelle heure il lève le soleil, 25 à l'heure, son dhuhr il a fait, son asr, maghrib, isha, alhamdulillah, il n'a pas fait d'erreur grave, il n'a pas bu d'alcool, il n'a pas mangé de haram, il n'a pas fait l'adultère, il a contrôlé son regard, il n'a pas manqué de respect à ses parents, il n'a pas, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui, à la fin de la journée, s'est rapproché du Jannah et s'est éloigné de du Jahannam. Qui se rapproche du contentement d'Allah et qui s'éloigne de la colère d'Allah. Fabushra! Bonne nouvelle pour cette personne. Bonne nouvelle. Mais celui qui a démarré sa journée en ratant Al-Fajr, se réveille à 6h30 pour aller au lycée. Et que, comme il est au lycée, Zohar ne fait pas aussi. Il réfléchit même pas comment je peux faire. Qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Et Asr, il est sorti en retard, donc il est rentré chez lui, il est fatigué, et ainsi de suite. Il est venu que Isha. Et que dans cette journée, il n'a rien fait pour ses parents. C'est pas uniquement qu'il n'a pas provoqué la colère de ses parents, non. C'est qu'il n'a rien fait pour eux. Il n'a pas obtenu un sourire de sa maman. Et un contentement de son papa, s'ils sont encore vivants. Mais cette personne-là a des soucis à se faire pour ce lundi. Parce que c'est un mauvais lundi. C'est un lundi qu'il a éloigné du paradis, éloigné d'Allah, rapproché du radab, de la colère d'Allah, et il a rapproché du jahannam. Mes chers frères, l'objectif c'est quoi? Même si on passe à côté de Iman bil Kutub, c'est qu'on on construit notre rapport avec le temps. Le rapport du croyant avec le temps n'est pas le rapport du kafir avec le temps. Le temps qui passe, on ne le fête pas. Au contraire, le temps qui passe, ça doit nous angoisser. Parce qu'on se rapproche du maw'id. On se rapproche du rendez-vous fatal, final avec l'ange de la mort. On ne sait pas, est-ce qu'avant de reprendre notre âme, je vais être capable de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, oui ou non? Je ne sais pas que quand mes proches vont me donner mon bain mortuaire, que j'ai 34 ans, 36, 40, 50, 80 ans, peu importe l'âge, est-ce que mes a'mal, les a'mal qui vont venir auprès de moi, ce sont de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres? Est-ce que ce sont de bonnes actions qui seront auprès de moi dans ma tombe, ou ce seront des péchés, mes péchés du quotidien? Le nombre de fois que j'ai fait bisous, j'ai fait la bise à ma copine, aux filles, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Le nombre de fois que j'ai écouté ce qui était haram. Le nombre de fois que j'ai regardé le haram. Le nombre de fois que j'ai vexé, j'ai blessé, j'ai offensé, j'ai frustré ma maman, mon papa, et ainsi de suite. Est-ce que ce sont ces péchés qui seront avec moi, ou alors ce seront les a'mal saliha, les bonnes œuvres? Est-ce que le jour des comptes, je me réveille avec an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, avec les pieux, les prophètes, les gens qui étaient dans l'obéissance d'Allah, ou je me réveille avec les pécheurs endurcis et ceux qui ont provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal? Ça, c'est notre rapport avec le temps. Chaque jour qui passe, c'est un combat. Un combat contre qui? Deux ennemis. Contre Shaytan, Iblis, et contre le Nafs. Inna an-nafs la ammaratun bis-su. Illa, sauf hein, des personnes, marahim rabbi. Ce Nafs qui me pousse vers le mal, et Iblis qui en rajoute une couche. Shaitan qui fait les waswas, alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, qui insuffle le mal, les pensées, mauvaises pensées dans le cœur. Chaque jour, mes chers frères, est une lutte contre Shaitan, est une lutte contre le nafs, et un test pour ma patience, sobre. Sobre ala ta'a, être patient et endurant, persévérant dans les bonnes œuvres. Malgré le contexte difficile dans lequel nous vivons, rester ferme dans mes salats, dans mon bon comportement, dans les qualités qui font de moi un muslim soumis à Allah. As-sabr anil ma'asiyah. Chaque jour qui passe est une épreuve pour que je développe ma patience face au péché. Malgré le contexte dans lequel je vis, où il y a le zina partout, il y a la musique partout, il y a le haram tout autour de moi, mais malgré ça, je reste ferme. Je ne m'enferme pas que... J'allais dire, je m'enferme dans un cocon. C'est une image. Ce n'est pas que je m'isole des gens. Mais mon iman me protège. Même si je suis dans le bus, même si je suis dans la grande surface, je suis au lycée, et ainsi de suite, quel que soit l'endroit où je suis, je reste dans l'obéissance d'Allah, je ne fais pas un pas vers le haram. Ça c'est musulman. Ça c'est l'objectif à atteindre, ça c'est l'idéal de la vie d'un musulman, c'est le combat de tous les jours. C'est pour ça que certains sahaba, j'ai plus les noms en tête, disaient qu'après chaque journée passée, avant de dormir, ils s'asseyaient et ils faisaient un bilan. C'est pas avant de dormir, on vérifie tous les mails de la journée, tous les textos, tous les WhatsApp, etc. Non. C'est à la fin de la journée, il fait un bilan. Est-ce que c'était une bonne journée? Et une bonne journée, c'est pas une journée où j'ai gagné 50 euros, ou 100 euros, ou 120 euros. Là, wallah. Une bonne journée, c'est une journée qui m'a rapproché d'Allah, comme on vient l'expliquer, par les bonnes œuvres et en restant éloigné du haram. Mes chers frères, c'est peut-être pas al-iman bil-kutub, mais ça, c'est l'essentiel de la vie du musulman. Celui qui a intégré ça, qui a compris ça, il a tout compris. Celui qui sait mettre la mort devant lui, et celui qui sait faire la relation entre le temps et la mort, il a tout compris. Alors que celui qui, pour lui, le temps est synonyme d'espoir, d'ouverture, de projet, de changement, il n'a rien compris à la vie. Alors que, je répète, celui qui sait faire la relation entre le temps et la mort, il a tout réalisé. Il sait que là, cette année, peut-être c'est ma dernière année. Peut-être me reste quelques jours, il me reste quelques mois, et ainsi de suite. Ça, c'est quelqu'un qui aura tout compris, parce qu'il saura que sa vie est limitée, et donc il doit prendre les bonnes décisions. On en est à combien de temps, là? 31 minutes, je pense qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. On avait l'intention ce soir de développer Al-Iman Bil-Kutub, troisième pilier de la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité à l'ange Jibril alayhi salam. Et on verra ça donc, Inch'Allah, la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va aller un petit peu plus vite. On va combiner Al-Iman Bil-Kutub et Al-Iman Bil-Rusul. Croire aux livres et croire aux bonnes œuvres. Inch'Allah, on fera ça la prochaine fois. Mais comme on a démarré un petit peu sur le bilan de fin d'année, ça nous permet d'aborder un petit peu les projets pour 1435 et 2015 aussi. 14 aussi, pardon. Là, c'est moi qui vais trop vite. Les projets. Quels sont les projets d'un croyant pour une année qui vient? On ne peut pas se permettre de compléter une année, de démarrer une autre année sans réfléchir, sans faire un bilan. Bilan, on a expliqué quel doit être le bilan. Et sans se fixer des objectifs pour l'année qui vient. Un commerçant, après une année, il fait bilan. Et pour la prochaine année, comment on appelle ça, les perspectives pour l'année. Il y a des termes plus appropriés en commerce. D'accord, les projets, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit investir, bref, comment il va mieux travailler. D'accord, donc une année qui commence ce soir, je dois prendre de bonnes résolutions. Et pourquoi est-ce qu'il est important de prendre de bonnes résolutions? Qui est capable de répondre? Pourquoi est-ce que c'est déjà une bonne action? Parce que « innamal a'malu binniyat ». Parce que les bonnes actions ne valent que par leurs intentions. Et quand j'ai l'intention de faire de bonnes choses, et ça c'est vraiment quelque chose de magnifique et de spécifique à notre religion, le prophète m'a dit « man hamma », celui qui « hamma », qui a l'intention de faire une bonne action, Allah lui accorde déjà la récompense. On avait déjà expliqué ça. Avant même que la personne fasse la bonne action. C'est-à-dire que là, par exemple, à court terme, aujourd'hui c'est lundi, je fais le niya, Riyad par exemple, dit que ce soir, avant de dormir, dit que demain, je fais l'intention de me réveiller à 4h15, tu peux faire encore tahajjud? Limite, hein? Allez, je me réveille à 4h. Ils sont le monde pour qu'on fait tahajjud, là, depuis un bout de temps. 4h, je fais 2 rakat. Et je fais doigt. Il a fait niya bas, l'intention. Mujarrad, le simple fait de faire le niya, Allah l'a déjà accordé la récompense de Qiyamul. Ajib, oui ou non? Ajib, ça c'est notre din. Et si la personne l'accomplit, Allah Azza wa Jalla lui accorde au minimum 10 fois plus. Manja abil hasanati falahu ashru amthaliha. Ça aussi il y a. Hajj prasam al hasanatu bi ashri amthaliha. La bonne action vaut 10 fois plus, 10 fois l'équivalent. Ça, c'est le minimum qu'Allah nous accorde, 10 fois plus que ce qu'on a mérité. Et ensuite, Allah Akbar, Allah il est Al-Ghani, le riche. Allah il est Al-Kerim, le généreux, qui donne sans compter. Allah peut donner jusqu'à 100, 200, 700. Et Allah seul sait, sans limite, plus on est sincère, plus on a fait des efforts, mujahada, pour faire cette bonne œuvre, cette bonne action, plus Allah nous accorde des récompenses. Donc à court terme, j'ai l'intention de faire ça, Allah me l'accorde déjà en récompense. Notre jeune ami dit que demain je vais faire Fajr en Jamaat, 5h05. Intention ferme. Il règle mon réveil là. Fini là, Shaitan il ne trappe pas moi. Allah l'a déjà accordé la récompense de Salat al-Fajr accomplie en congrégation. Et Allah ici le nia bien sûr. Allah il connaît qui est sincère, qui n'est pas sincère. Si quelqu'un dit, ah demain je fais Fajr, mais après il dit, après il règle son réveil pour 7h moins 15. Ben non. Mais s'il dit, je fais et je prends mes précautions, je me couche tôt, je mets mon réveil, je dis Inch'Allah, demain je me lève. Puis Allah t'accorde déjà la hasana, les récompenses. Donc, à long terme, en termes de a'mal saliha, qu'est-ce que je dois prévoir pour cette année? Je dois décortiquer toutes les branches de la religion et me dire que je dois travailler chacune de ces branches, en commençant par l'aqida, les croyances. Dit qu'il faut que je développe ma croyance en Allah. Parce que plus je vais connaître Allah, plus je vais l'adorer. Plus je connais les sifat d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jal, plus j'aurai l'amour d'Allah dans mon cœur et j'aurai la crainte d'Allah dans mon cœur. Plus j'aurai envie de faire de bonnes œuvres, de l'obéir pour qu'il soit content de moi, et plus j'aurai peur de lui désobéir, connaissant comment Allah peut châtier, comment Allah peut punir. Plus je connais l'existence des anges, le travail, comment ils enregistrent les actions et ainsi de suite, plus j'aurai envie de faire des bonnes œuvres et me donner des péchés et ainsi de suite. C'est-à-dire développer ma première niya, c'est de faire en sorte que cette année je développe mon iman. Deuxième objectif, je développe mes arcanes, l'islam, mes piliers, en commençant par là, la salah. J'essaie d'être assidu déjà dans mes 5 salats. Même si ce n'est pas la masjid, par rapport à mon emploi du temps, mon travail, quelles que soient les raisons, mais je ne rate pas une salat à l'heure. Et ce n'est pas non plus que, des fois le samedi matin, je demande aux élèves, qui a fait Fajr, qui n'a pas fait Fajr. Grand. La moitié me dit que j'ai fait. J'ai dit, quelle heure? J'ai dit, avant de venir à Madras. C'est-à-dire, je n'ai pas fait à l'heure, j'ai remplacé avant de venir. Maïmchi. Ce n'est pas possible ça. Donc, premier objectif concernant les œuvres, les bonnes actions, c'est être régulier mes 5 salats, même si cela ne peut pas être fait en congrégation. Maintenant, celui qui peut le faire, qui fait déjà ces 5 salats, on essaie de monter, de placer la barre plus haut, et essayer de les faire en congrégation. Celui qui vient déjà à la masjid, j'essaie de perfectionner. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la perfection de la salat. Sauf quand vous allez vous rendre compte que ma salah, elle est comme celle d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Là, c'est bon. Et là, tu me dis ton nom et je te respecte. Et je te suis partout parce que tu seras mon maître, mon chef, d'accord, mon modèle. Mais il n'est pas né encore celui-là. Tant que ma salah n'est pas comme les sahaba. Donc, celui qui vient déjà à la masjid, il se fixe son objectif d'être présent, tatbir oula, début de la salah. Ensuite, là-bas, on monte, on place la barre plus haut, être présent au premier saf, au premier rang, dès le début donc du takbir. Celui qui le fait déjà, subhanallah, déjà ça c'est un wali min awliya Allah, cette personne-là, il fait l'intention maintenant d'être assidu dans les rawatib, les sunan, les prières avant et les prières après. Laisser, faire l'intention donc d'être assidu également, étape suivante de qiyam ul-layl, tahajjud, shuruq, la prière du matin après le lever du soleil, et ainsi de suite, ces namaz, ces salats qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont source de récompenses énormes. Celui qui, mashallah, il fait déjà tout ça, maintenant on peut mettre plus d'objectifs en même temps, on doit faire l'intention de développer la concentration, la dévotion de la salat. De quelle façon? Deux façons de développer la concentration de la salat. Premièrement, c'est d'aimer Allah, de croire plus en Allah, de connaître Allah. Et là, ça revient à Iman Billah, connaître Allah. Si on connaît les attributs d'Allah, quand on se prosterne devant lui, on sait devant qui on se prosterne. Autrement, ce sera la gymnastique, on n'y pensera même pas, on pensera à autre chose, qu'Allah nous pardonne. Et la deuxième chose, deuxième action pour développer la concentration dans la salah, c'est de comprendre les paroles de la salah. Comprendre, ça veut dire quoi? Allahu Akbar. Comprendre, ça veut dire quoi? Subhanaka Allahumma. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ comprendre A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Comprendre Bismi Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et ainsi de suite. C'est des sabaks, c'est des leçons jour après jour. N'est-il pas notre devoir, mes chers frères, de connaître qu'est-ce qu'on dit à Allah dans la salah? Quand quelqu'un dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah répond. Comme c'est le hadith Qudsi. Quand il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah répond. Est-ce qu'il nous incombe pas de connaître qu'est-ce qu'on est en train de dire à Allah Azza wa Jal? Et si on arrive à ce degré, qu'on arrive à comprendre, quand je dis comprendre, c'est pas que prendre un Coran en français, hein. Non, c'est aller plus loin avec le ilm, le tafsir des ma'ani, les sens des versets et ainsi de suite. Là, subhanallah, ma salah, elle va atteindre un degré extraordinaire. Ma salah va atteindre, subhanallah, aura une telle ampleur qu'elle va réellement tanha anil fahsha et wal munkar, m'empêcher de faire le mal parce que j'ai compris devant qui je suis. J'ai compris que quand je suis devant Allah, je dois contrôler mes membres. Je dois contrôler ce que je dis. Si je dis autre chose que les paroles de la salah, ça casse, oui ou non? Ça annule. Je dois contrôler mon regard. Salah, je ne regarde pas partout, je regarde par terre. Devant Allah, je contrôle mes oreilles. Je contrôle mon cœur, ma pensée. Et il va réaliser que ça, c'est l'état d'esprit du croyant, en fait, de la vie de tous les jours, toujours se contrôler pour Allah. Il deviendra un des meilleurs croyants. Ensuite, troisième étape, les autres arcanes de l'islam, bien sûr, alors le somme et ainsi de suite, mais ça, on ne va pas développer pour ne pas être trop long. Troisième, ce n'est pas dernière, mais troisième étape qu'on citera, nos relations avec les gens. Et dans tout ça, vous avez compris de quoi quelle va être notre priorité, nos relations avec mes parents. Essayer d'analyser quel est mon degré de relation avec mon papa, ma maman, et qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient tout le temps satisfaits de moi, pour que je sois la fraîcheur de leurs yeux, qu'à chaque fois qu'ils me voient, il y a un sourire, soit sur leur visage, soit de leur cœur. Pas quand ils me voient, ils voient une source de calamité, une source de problème. Ils voient un problème sur pied qui avance, un problème vivant qui respire, qui mange. Non, je dois être une source de bonheur pour eux. À travers les gestes du quotidien, je ne sais pas moi, chacun y connaît ses parents, aller acheter le pain pour eux, aller faire leurs courses, porter les courses, arrangez-vous que pour savoir quand est-ce qu'ils rentrent à la maison pour porter les affaires. Puis chacun y connaît comment son père évolue et ainsi de suite. Même les messieurs, les garçons, arriver l'heure du repas, aider. Si on est à la maison, aider la maman, faire la vaisselle. C'est pas un truc qui va atteindre votre virilité. Bien au contraire, c'est peut-être avec ça qu'on obtient le Jannah, qu'on obtient le paradis, subhanallah. Donc ainsi de suite, on ne doit pas commencer cette année bêtement, sans objectif. On doit être un musulman, un croyant intelligent, se fixer ces objectifs-là, Inch'Allah, pour cette année, et demander à Allah, oh Allah, j'aimerais faire ça, j'aimerais, j'ai l'intention pour être plus proche de toi, pour que tu m'aimes plus, oh Allah, aide-moi, accorde-moi le tawfiq et envoie-moi ton aide pour que je puisse avancer sur tous ces objectifs et que l'année 1434 écoulée, 1434, fin de soirée, écoulée, oh Allah, que je me rapproche de toi. On fait tout ce nien, Inch'Allah. Allahumma amin. Qu'Allah accepte et qu'Allah reconnaît notre intention. Qu'Allah nous accorde, husnul niyya, la bonne intention et l'envie de nous rapprocher de lui et le tawfiq de faire les bonnes œuvres pour qu'il soit satisfait de nous, Inch'Allah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Et en même temps, en début d'année, comme ça, on demande dua, protection, qu'Allah nous protège. Protège nos parents, nous-mêmes, nos enfants, nos familles, contre les choses mauvaises, les maladies, contre tout ce qui est mauvais, la sorcellerie, le mauvais regard, la méchanceté des gens, les atteintes physiques, tout ce qui peut être nuisible. D'accord? Tout ça aussi, on demande toujours protection, que ce soit une année où, Inch'Allah, on a la tranquillité du cœur également. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.